Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous le savez, notre mission, c'est de vous donner la parole hein, pour mettre en avant vos idées, vos projets, vos initiatives, celles qui nous permettent finalement de construire ensemble la société de demain. Avec la crise du coronavirus, cette exigence, cette urgence nous a tous frappés et certains ont décidé de se projeter dans ce que l'on appelle la France d'après. Utopique ou réaliste, nécessaire ou pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la volonté est là et on va le voir ensemble avec vous, bien sûr, Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
On est ravis de parler de cette France d'après.
Oui, elle est tellement essentielle, ce monde de demain est essentiel.
Oui, on va co-construire hein, ce monde de demain avec nos invités évidemment qui réfléchissent, qui se projettent. À commencer par vous Mathieu Orphelin, bonjour.
Bonjour à vous, ravi d'être avec vous.
Ravi également de vous recevoir. Vous êtes aujourd'hui, en tout cas, porte-parole de la consultation citoyenne baptisée Le Jour d'après. Alors, je vais expliquer ce que c'est. Vous êtes une soixantaine de parlementaires à avoir signé ensemble, toutes couleurs politiques confondues, cet appel pour une réflexion à long terme. C'est quoi ? C'est une immense boîte à idées pour voir ce que nous, les citoyens, nous voulons voir changer après cette crise du coronavirus ?
Exactement, nous avions lancé cette opération 15 jours après le début du confinement. On était encore en plein cœur de cette crise terrible du coronavirus, mais nous avons proposé aux citoyens de pouvoir réfléchir ensemble sur une plateforme internet, poster leurs idées, réagir sur les idées d'autres citoyens, donc sur un certain nombre de thèmes qui allaient de la santé à la sobriété, à l'emploi, à la solidarité, etc. Et effectivement, nous avons reçu en un mois de consultation plus de 8700 propositions portées par les citoyens, plus de 100 000 votes de soutien. Et nous avons rendu hier les résultats. Donc, toute la synthèse de tout ce qui avait été posté sur la plateforme, mais aussi une sélection de 30 mesures que les 66 parlementaires s'engagent apporter collectivement dans les débats parlementaires, au-delà de nos divergences politiques habituelles. Effectivement, cette sortie de crise, il faut trouver un chemin commun, il faut imaginer cette société, ce monde de demain, et pour ça, il faut dépasser nos clivages politiques, d'où cette approche transpartisane, donc à la fois un exercice de démocratie participative, mais aussi un engagement politique à porter les conclusions notamment sous forme de loi.
Justement, comment est-ce qu'on fait pour transformer en réalité ce qui est sur le papier, une idée ? Parce qu'on a tous évidemment envie de voir les choses changer. On entend aussi beaucoup de gens dire vous êtes un peu utopique, utopiste, vous verrez dans quelques mois, on va revenir au monde d'avant.
Nous, on veut empêcher effectivement de revenir au monde d'avant. Certains y ont intérêt, certains imagineraient une relance comme avant plutôt qu'une transformation de notre société. Pourtant, ce serait se lancer deux fois plus vite dans le mur. Donc effectivement, nous portons, et nous, c'est notre engagement pris dans cette consultation, de porter ces 30 propositions. Par exemple, pour faire de l'hôpital une priorité nationale, parce que cette crise, elle a montré que notre souveraineté sanitaire aujourd'hui n'était plus assurée. Par exemple, revaloriser les salaires des soignants, en commençant par évidemment les aides-soignantes, les infirmières.
Faire de la prévention aussi, j'ai regardé, faire de la prévention et parler de solidarité, c'est aussi quelque chose qui a émané.
Oui, faire de la prévention. Effectivement, faire de la prévention, notamment dans le secteur de la santé. On sait qu'un euro investi dans la prévention santé permet 10 ou 15 ans après d'éviter 10 à 15 euros de dépenses de santé. Donc effectivement, cette prévention dans la santé, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, vous voyez, il y a des grandes actions qui sont ressorties. Comment on peut développer le télétravail partiel, mais en ne rajoutant pas des inégalités sociales et en n'aliénant pas ceux qui télétravaillent. Comment on peut mettre en œuvre progressivement un revenu universel d'activité ? Ça, c'est aussi beaucoup ressorti des propositions des citoyens. Donc oui, il faut que les choses changent. D'ailleurs, on a vu dans certains élans de solidarité, on a vu avec les pistes cyclables vélo, qu'à certains moments, des choses qui normalement mettent des années, eh bien, peuvent changer très vite. Donc oui, changeons en profondeur notre société et oui, à un rythme beaucoup plus important qu'avant cette terrible crise.
Et puisque vous parlez de santé, justement, Elisabeth, il y a des consultations citoyennes qui vont avoir lieu sur ces questions de santé, notamment sur comment on peut penser l'hôpital de demain et quelle est aussi sa place dans le système de santé.
Oui, c'est le CSE, le Conseil économique, social et environnemental, qui s'est associé à MEC.org avec une grande consultation citoyenne lancée aujourd'hui avec cette question de fond, comment améliorer l'hôpital de demain et sa place dans le système de santé. On l'a vu, hein, depuis le mois de mars de 2019 jusqu'au mois de février dernier, les soignants, on les a vus, ils n'ont cessé de manifester, de faire grève dans toute la France pour dénoncer le manque de moyens, pour réclamer plus d'embauches, pour réclamer des hausses de salaire. La crise du Covid n'a fait que mettre en exergue cette crise de l'hôpital public. On a vu le manque de lits, le manque de médicaments, de matériel. Ainsi, le Conseil économique et social, qui représente plus de 80 organisations issues du monde de l'entreprise, syndicales ou encore associatives, lance cette grande consultation citoyenne pour l'imaginer ensemble, cet hôpital de demain.
Et décidément, MEC.org est très très actif dans ces consultations citoyennes. Vous restez avec nous, Mathieu Orphelin. On va justement rejoindre Axel Dauchet, qui est fondateur et président de MEC.org. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez lancé, alors avec la Croix-Rouge, avec le WWF, le groupe SOS, avec Unicité, le mouvement œuf, une consultation baptisée « Comment inventer tous ensemble ce fameux monde d'après ». Trois semaines après le démarrage, il y avait déjà 80 000 participants. Il y en a combien aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on a dépassé les 120 000 participants et on a surtout plus d'1,3 million de contributions. C'est des niveaux et un succès qui est absolument inédit. On est quasiment 10 fois plus de contributions par participant que ce qu'on a dans d'autres types de consultations. Il y a vraiment un moment très très particulier où au milieu entre la crise sanitaire et la crise économique, on sent que les citoyens ont envie de reprendre un peu la main sur leur destinée.
Parce que les gens ont eu le temps de se poser et de se poser aussi les bonnes questions.
Oui, je pense qu'il y a eu ce temps-là. Il y a eu surtout une sorte d'urgence qu'ils ont ressentie, qui est on va sortir du confinement, on va être au milieu d'une crise économique. Si ce n'est pas maintenant qu'on dit fini les bases sur lequel vont se passer le monde d'après, on risque de juste passer à côté et de ne pas profiter de ce moment absolument dingue pour se retrouver, pour définir un agenda citoyen sur lequel société civile et pouvoirs publics peuvent agir de concert et effectivement changer la donne.
Alors vous avez vu aussi, hein, comme Mathieu Orphelin tout à l'heure, vu émerger des thèmes, je pense au transport, je pense à l'emploi, à la protection de l'environnement, à l'agriculture et bien sûr à la question de la santé.
Alors en fait les thèmes qu'on a vus pour le moment, ce sont les thèmes de ce dont les gens débattent. Il va falloir atteindre la fin de la consultation pour savoir ce qui est vraiment notre objectif, d'identifier où sont les consensus et où sont les clivages, parce que c'est vraiment là qu'on est capable de mettre en œuvre du coup des actions extrêmement fortes. Mais en termes de débat, effectivement on a l'environnement avec la biodiversité et puis des idées très concrètes typiquement autour de la végétalisation des villes.
Comme par exemple
La végétalisation des villes, c'est partout, et ça c'est un signal faible qu'on avait déjà vu. Il y a une envie gigantesque de changer la nature des villes et de faire rentrer plus la nature au sein des villes. Sur l'alimentation, agriculture, le thème qui se renforce de façon colossale, ce sont les circuits courts, le fait de reconstruire une économie à l'échelle des gens. Alors c'est alimentaire, ce n'est pas que alimentaire, mais globalement il y a une envie d'une économie plus locale et puis qui est aussi confère aussi une indépendance alimentaire qui était un des sujets qui est ressorti dans les angoisses de ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment un point important. Sur les transports, je dirais que la place de la voiture est posée dans toutes ses dimensions. Oui. Par rapport au vélo, au transport en commun, la voiture électrique et puis le gros questionnement sur l'avion, comment diminuer, jusqu'où diminuer l'avion dans notre écosystème.
Et ce qui est assez étonnant aussi, même si vous n'êtes pas au bout du processus, c'est que les citoyens, en revanche, attendent que ces changements viennent des pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'ils veulent bien leur faire remonter leurs idées, mais c'est à eux finalement qu'ils confient les clés du camion pour les mettre en œuvre.
Alors en fait, Pas tant que ça, moitié-moitié, je dirais. La moitié, ils convoquent dans ces propositions, la moitié à peu près les pouvoirs publics, la moitié les autres acteurs de la société civile, les associations, les entreprises et les citoyens eux-mêmes. C'est plutôt équilibré par rapport à ce qu'on a vu ailleurs. Mais y a aussi une vraie responsabilisation des citoyens eux-mêmes. Je pense que les périodes qu'on vient de vivre leur fait prendre conscience que les choses peuvent changer, qu'on n'est pas dans une sorte de flux d'histoire sur lequel on est juste des spectateurs, mais que si on se prend en main et si on se coordonne tous ensemble, on est capable d'avancer. Le sujet difficile, c'est de trouver les sujets sur lesquels tout le monde est prêt à avancer dans la même direction. C'est un peu l'objectif de notre démarche.
Alors justement, Elisabeth.
Oui, avancer dans la même direction, prise de conscience, c'est ce que vous dites. Que veulent-ils changer le plus? Qu'est-ce qui ressort?
Alors, je pense que là, les questions fondamentales, alors je mets de côté la santé qui est vraiment très importante.
Mais c'est saillant, là.
Les trois choses que je ressortirais vraiment comme éléments les plus majeurs, c'est un changement durable du rapport au travail. C'est bien sûr le télétravail, c'est les métiers essentiels, c'est la question sur le revenu universel, la relocalisation de l'économie. Bref, le rapport au travail a été complètement bouleversé et ça va être un changement durable. Le deuxième, pas dans l'ordre, mais c'est tout ce qui touche à l'environnement, la question de l'expérience qu'on a vécue d'une sorte de déconsommation, comment est-ce qu'elle réveille, je dirais, elle revisite l'environnement de façon différente que simplement la peur du changement climatique, et comment est-ce qu'il devient très concret chez les gens dans un certain nombre de choix de transport, de choix de comportement individuel. Et puis le dernier, mais ça il était présent, c'est cette notion de circuit court au sens large, c'est-à-dire cette notion d'une économie à l'échelle des gens.
De proximité.
C'est pas du nationalisme, c'est pas.
Mais c'est imbriqué avec l'environnement.
Oui, tout est toujours un peu impliqué, mais sur le circuit court, il y a une notion aussi
de rapport humain aussi et d'envie de proximité.
Exactement, de rapport humain et d'une économie qu'on est capable de comprendre. En fait, il y a une sorte de simplification. Revenons à des choses où les gens sont pas loin. On a une économie qui, de nouveau, est compatible avec nous-mêmes.
Et on va voir que ça ne s'arrête pas là. Merci Mathieu Orphelin et Axel Daucher d'avoir été avec nous pour imaginer cette France d'après. La France bouge continue, 13h19.
Europe 1.
La crise économique qui secoue les entreprises les pousse aussi à réfléchir à d'autres manières de faire dans les mois et dans les années qui viennent. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h21, la crise du coronavirus a eu des effets collatéraux. 12 400 000 Français sont au chômage partiel. L'activité a considérablement chuté. Chute la plus importante depuis 1949. 36% de baisse. 44% quand on regarde l'activité industrielle. Et même si des baromètres comme celui de la BPI et de Rexecode dévoilés hier montrent que les patrons sont confiants, il reste un certain nombre d'incertitudes à lever. Alors, les entrepreneurs se mobilisent. Philippe Renaudy, bonjour.
Oui, bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'UPE des Alpes-Maritimes et avec d'autres patrons du département, vous avez monté Et Après. C'est à la fois une plateforme et un hashtag qui accueille une quarantaine de chefs d'entreprise. Quelle est votre idée justement? Comment est-ce que vous allez vous organiser, vous, chef d'entreprise, pour que l'après ne ressemble pas à l'avant?
Alors on a créé, c'était l'initiative du MEDEF Côte d'Azur que je préside, si vous voulez, par un collectif effectivement de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont chefs d'entreprise, ils ont tous moins de 40 ans. Et je leur avais demandé, donc déjà avant la crise, qu'on avait constitué ce petit groupe, je leur avais demandé un petit peu de réfléchir, de voir un petit peu comment ils voyaient, eux, cette nouvelle génération, comment ils voyaient la nouvelle économie.
Oui.
Là-dessus est survenue la crise sanitaire, et effectivement, elle a changé la donne, et elle a remis en question vraiment nos modèles économiques. Donc ce confinement nous a incité à plus d'écoute et de solidarité. Donc c'était l'opportunité de mettre les entreprises locales, si vous voulez, au cœur de l'économie du territoire. Donc ils m'ont proposé de créer une charte,
oui.
Une charte en 10 points. Et ces 10 points, si vous voulez, je ne vais pas vous les citer tous, mais ils dénotent bien l'état d'esprit de cette charte. C'est si possible, dans la mesure du possible, c'est préférer un recrutement local, c'est privilégier les fournisseurs et les circuits courts. C'est également adopter des comportements civiques, éthiques, voyez, vis-à-vis des tiers. et tout ça, et puis d'autres comme soutenir financièrement chaque année.
C'est assez révélateur aussi, parce que ça signifie que jusqu'à présent, on ne le faisait pas.
Il y avait moins cette solidarité, cette entraide entre entreprises. Elle est vraiment née de ce confinement et de cette réflexion, et de voir un petit peu aussi des entreprises qui commençaient. Vous savez, les jeunes chefs d'entreprise se sont appelés, ils étaient angoissés, ils avaient des soucis, ils voyaient bien que leur entreprise était à l'arrêt. Donc et ce collectif a commencé à réfléchir et à dire, tiens, on pourrait faire cette charte. Et ceux qui se sentirent mieux pourraient aider ceux qui se sentirent moins bien. Mmh. Donc, si vous voulez, ce qu'on veut faire, on voulait être concret. Et il fallait vraiment un engagement tangible des signataires de cette charte. Et donc chacun devra attester, si vous voulez, deux fois par an, des objectifs qui devront tenir.
Oui, donc un retour sur objectif.
Oui, il y aura un retour sur objectif, absolument. Vous voulez vraiment que ce soit concret, parce qu'on veut soutenir également des associations culturelles, sportives, ou mener des actions avec des associations caritatives. Alors, ou en faveur de l'environnement. Et c'était Philippe vraiment primordial de mettre concret.
Quelle est finalement la première chose qu'aujourd'hui, vous auriez envie de changer? Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, l'acte 1?
L'acte 1, il faut qu'on soutienne les entreprises qui vont être en grande difficulté, et il faut surtout faire preuve de civisme. Je pense qu'il y a des entreprises on ne peut pas demander des aides de l'État si on n'en a pas besoin. Il faut vraiment faire preuve de civisme, c'est très important, parce qu'on va avoir beaucoup d'entreprises qui vont en avoir vraiment besoin. Et vous en parliez tout à l'heure, c'est évidemment dans le tourisme qui sont les plus impactés. Il faut vraiment qu'on mette toutes nos forces là-dessus. Mais,
Elisabeth ?
Oui, mais vous dites qu'il faut faire preuve de civisme. Comment distinguer l'entreprise qui en a vraiment besoin par rapport à d'autres ? Chacun, à son niveau, estime que c'est la chose la plus précieuse et il faut la sauver. Comment vous allez faire la distinction ?
Alors, nous, si vous voulez, ce qu'on a mis en place, c'est que le MEDEF, si vous voulez, dans les Alpes-Maritimes, va être le relais. Les entreprises qui auront besoin de soutien, par exemple, de chercher des nouveaux marchés, de trouver de nouveaux clients, ils s'adresseront ici au MEDEF. On les mettra en liaison avec les gens qui auront signé la charte et qui se sont engagés à travailler avec des fournisseurs locaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si le but, c'est effectivement vraiment de aider ces gens-là. Donc, nous, on fera que le relais avec les signataires de cette charte. Et cette charte, elle a été présentée au MEDEF national.
Oui.
Et aujourd'hui, on est relayé à peu près. On a déjà une dizaine de départements qui emboîtent le pas et qui vont adopter cette charte.
Alors,
et qu'on va mettre en place, on espère, un peu dans toute, sur toute la France.
Restez avec nous, parce qu'on va accueillir ensemble Stéphane Distinguin, qui est fondateur et président de Faber Novel, et qui est aussi l'un des créateurs de Recovery, une initiative collaborative qui vise à repenser, là aussi, l'économie d'après-Covid. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, Mme Duchemin.
On est ravis de vous avoir en ligne dans La France Bouge. Qu'est-ce qu'elle peut avoir de différent pour vous, cette économie d'après?
Elle doit être bien plus consciente en fait de ce qui a été accéléré pendant ces dernières semaines. Et puis, Bruno Latour, qui est sociologue, a posé au tout début de la crise une très bonne question. C'était de se dire, si une fois que tout a été arrêté, on peut enfin se poser la question de qui doit répartir, et encore mieux, est-ce qu'on peut arrêter. Donc c'est une question individuelle, mais c'est aussi une question pour les entrepreneurs. Donc il y a des changements qui ont été très positifs et qu'il faut soutenir, maintenir. Axel Dauchesse tout à l'heure a parlé du rapport au travail, du télétravail, la mobilité. Moi, ce que j'entends, ce qui me paraît le plus important, et là nous entrepreneurs, entreprises, on est attendus, c'est sur le sujet de la confiance. C'est-à-dire que les prochains mois, je ne sais pas vraiment sincèrement s'il y aura un monde d'après, parce qu'on n'a pas vraiment la date du monde d'après.
Ouais.
D'accord, on attend cette date. Donc en fait, ce qui convient, c'est de trouver une méthode. Et pour moi, cette méthode, il faut créer de la confiance avec les parties prenantes. L'économie, elle repartira que grâce à la confiance. Et les entreprises et les entrepreneurs, leur rôle à leur échelle, c'est de recréer cette confiance au sein de leurs équipes et plus généralement avec leurs clients, leurs parties prenantes. Et donc c'est ça qu'on veut faire. C'est donc le monde d'après, j'espère qu'on aura à cœur et qu'on pourra être en capacité de créer encore plus de confiance.
Oui, parce qu'après une crise, de toute manière, les priorités ne sont plus vraiment les mêmes. Est-ce à dire qu'il faut faire table rase de tout ce que l'on faisait avant, ou est-ce qu'on garde mais on améliore? Parce que on sait qu'il y a certains pans de l'activité économique qui seront de toute manière durablement et profondément transformés.
Alors, l'économie, on le voit bien aujourd'hui, les chiffres sont en train de... Vous les citiez, ils sont pour moi un peu sujet à caution encore, parce qu'on a quand même un sentiment qui est bien plus fort que celui des chiffres qui sont avancés, hein, individuellement et plus collectivement quand on parle entre entrepreneurs. Il y a, je vous l'ai dit, des signaux qui sont très positifs et des éléments qui sont des éléments sans doute à arrêter. Enfin, on voit bien qu'il y avait que le rapport à l'environnement qui est monté aussi très fort et est un sujet qui est un sujet qu'on doit porter maintenant en tant qu'entreprise. Et que le rapport à la société, on a été interpellé tous les entrepreneurs et en particulier par, vous savez, après cette polémique là du MEDEF sur leur demande de moratoire sur les engagements justement pour l'écologie par une association d'étudiants qui s'appelle Pour un réveil écologique. Et ces jeunes gens nous disent, vous, les entreprises, si vous ne prenez pas en compte ce monde de demain, ce que nous on attend en fait de ce monde de demain, nous ne viendrons plus travailler chez vous. Donc il y a aussi ce sujet d'accueillir en fait et d'en capacité de continuer à exercer, parce qu'on sera bien sur les sujets qui font en fait les citoyens et les collaborateurs, les professionnels de demain.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va continuer à débattre ensemble de ce monde d'après. Il est 13h29 sur Europe 1.
Europe 1.
Et si la transformation devait aller encore plus loin, c'est ce que certains acteurs pensent aujourd'hui. Ils se mettent en ordre de bataille pour préparer demain. A tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
On a tous des études en tête qui nous disaient avant le Covid, hein, la société est en train d'évoluer, elle a envie de moins de plastique, de plus d'éco-responsabilité, mais avec les semaines de confinement, les angoisses que l'arrivée du coronavirus a générées, ces changements ont été réfléchis sur du long terme et aujourd'hui vous allez voir que certains s'y attellent. Elisabeth, c'est le cas de ces 400 000 entreprises à impact social et environnemental qui montent en ce moment au front pour penser justement elles aussi le monde de demain.
Oui, il s'agit du collectif Nous sommes demain, qui réunit, vous l'avez dit, 400 000 entrepreneurs, qui emploie 3 millions de salariés, qui appelle le gouvernement à soutenir une économie plus solidaire, plus durable et inclusive. Ce collectif Nous sommes demain propose une dizaine de mesures à mettre en place. Parmi ces mesures, je vous les citer, on trouve un écart maximum d'un facteur 10 entre le plus haut et le plus bas revenu dans l'entreprise, un minimum de 25% de placement de l'entreprise réalisée dans des fonds responsables, ou encore un score de plus de 90 à l'index égalité femmes-hommes, ou une gouvernance mieux partagée avec les salariés. Ce sont donc 400 000 entrepreneurs qui représentent ce collectif Nous sommes demain.
Je suis certaine que ça parle à notre prochaine invitée qui est en ligne avec nous. Bonjour Julie de la Sablière.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Decade for Change. Vous avez monté en fait un cabinet de conseil en transformation durable. Votre constat, c'est de dire on a finalement quoi, 10 ans devant nous pour radicalement changer la société. Alors du coup, on commence par quoi ?
Oui, exactement. En fait, on a 10 ans pour changer en profondeur la manière dont on fabrique, on commercialise, on consomme les produits et les services, et aussi la manière dont on communique et on se déplace. Alors pourquoi ces 10 ans ? Parce que 2030, c'est une date fatidique et c'est un point de bascule et quelque part un point de non-retour. On sait que c'est l'horizon des Nations Unies pour ces 17 fameux objectifs de développement durable.
Oui.
Et une décennie qu'on appelle une décennie d'action. Et en fait, 10 ans, ça paraît très long. En fait, c'est très très court à l'échelle d'une entreprise qui doit transformer son appareil productif. Et on voit bien que l'enjeu avec cette crise, c'est qu'on va pouvoir tout accélérer de 2-3 ans. On va pouvoir, ou à l'inverse, ça va tout retarder de 2-3 ans, ce qu'on ne peut juste pas se permettre. Donc l'enjeu de lancer cette activité maintenant, c'est précisément de faire le pari de l'accélération. Et c'est des virages qui sont effectivement compliqués à faire à chaud quand l'activité bat son plein. Et là, la situation nous oblige à ralentir. On a cloué des avions en sol, on a arrêté certaines lignes de production. Et il faut vraiment profiter de cet arrêt pour se mettre sur la trajectoire du monde d'après.
Parce que c'est là que le mot crise devient, comme nous le disait Frédéric Mazella il y a quelques semaines de cela à l'antenne en japonais, que le mot crise devient opportunité.
Absolument, et on voit bien les aspirations que tous vos précédents intervenants ont soulevées, hein, la transition écologique. Moi, je pense que c'est pas que le sujet des citoyens et des ONG. Il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui sont convaincus, et vous en avez reçu de nombreux d'ailleurs à ce micro. La réalité, c'est que ce qu'ils vont devoir implémenter dans leurs entreprises, ça nécessite des arbitrages qui sont très importants, et de convaincre à la fois les investisseurs, les actionnaires, convaincre les directions et le management, les clients aussi, parce qu'on va faire changer leurs habitudes, et les collaborateurs. Et c'est d'autant plus complexe en fait que aujourd'hui le diagnostic, il y a un consensus qui existe sur la situation, sur l'urgence climatique, sur la destruction de la biodiversité, mais les solutions sont pas là toutes présentes et il n'y a pas forcément de consensus, comme disait Axel Deschaix, sur la manière dont on peut les orchestrer. Donc c'est un domaine où les impacts sont mal mesurés et en fait chaque acteur va devoir en responsabilité inventer le chemin à emprunter et la bonne trajectoire.
Et vous dites qu'il y a quand même un risque malgré tout, parce que vous parlez d'un coup d'accélérateur de 3 ans, donc faire un bond en avant, et ça c'est tout à fait possible, mais vous dites le risque c'est aussi de faire un bond en arrière de 2-3 ans.
Absolument, il y a un risque qu'on retarde en fait les effets, parce que le temps de faire réatterrir l'économie comme elle tournait jusqu'à maintenant, on risque de perdre un temps qui est un temps crucial, d'où la nécessité effectivement, dès aujourd'hui, les entreprises se mobilisent pour poser leur stratégie, leur vision 2030, construire cette feuille de route, la partager et engager à la fois avec tous leurs écosystèmes. Je pense que c'est des sujets où aucune entreprise pourra gagner toute seule, donc il va falloir qu'elle travaille beaucoup plus en filière, en secteur, mais aussi en rassemblant le public, le privé, les ONG, pour dépasser les logiques de concurrence et de posture qu'on voit habituellement et travailler ensemble. Et puis il va falloir qu'elles engagent aussi avec leurs collaborateurs, développer le dialogue et la mobilisation interne. C'est un des sujets sur lesquels nous on essaie de travailler, d'utiliser cette période où on le voit, le besoin d'expression, le besoin d'engagement est très fort, pour tirer les leçons de cette crise.
Travailler ensemble, c'est vraiment le facteur clé.
Exactement.
Vous restez avec nous. Je voudrais qu'on accueille, parce qu'on est en train de parler de transformation de la société. Ça passe aussi par une transformation réelle de nos villes, notre manière finalement d'occuper, de vivre l'espace. Et c'est le sujet sur lequel se penche le PUCA. Bonjour Hélène Peskin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire permanente de ce PUCA. Le PUCA, c'est le plan urbanisme, construction, architecture. Quand on traverse une crise, on vit aussi forcément des bouleversements dans votre secteur. C'est la raison pour laquelle vous avez souhaité lancer 2 initiatives.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes un organisme de recherche qui est rattaché au ministère en charge de la ville et de l'urbanisme. Et donc, au quotidien, on travaille avec des chercheurs, des sociologues, des urbanistes, des économistes ou des géographes sur les questions qui intéressent les décideurs dans la ville, que ce soit des professionnels ou des élus. Il se trouve que cette crise du Covid pose énormément de questions sur ces sujets, à la fois sur la taille de nos logements, sur notre rapport à la nature, sur nos déplacements, sur les équipements commerciaux, sur notre rapport au travail, notamment avec cette question du télétravail qui se massifie. Et donc, on a pris l'initiative de lancer un exercice à la fois de veille, c'est-à-dire d'aller chercher tous les articles et les opinions qui sont publiés sur ces sujets durant la crise, et puis de demander des contributions pour identifier dans un an ce que ça pourra avoir produit dans la manière de faire la ville, c'est-à-dire prendre un peu le recul finalement de l'après-crise et donc de poser aujourd'hui les questions pour se dire dans un an finalement qu'est-ce qu'on en aura tiré comme enseignement.
Il y a cet appel à contribution pour appréhender autrement la ville et en parallèle un appel en candidature pour une ville qui soit effectivement la ville d'après le Covid dans les domaines de la recherche urbaine. Ça signifie que ça pose un certain nombre de questions aussi sur notre manière d'habiter, nos modes de vie, la construction aussi, ou la manière dont on a envie de construire la ville du futur.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans les articles ou les opinions qui sont déjà parues, on voit se dessiner des controverses. Par exemple, au début de la crise, on disait il faut se méfier de la nature puisque c'est elle qui nous amène le virus. Et depuis que le confinement a commencé, au contraire, toutes les aspirations des Français vont vers plus de rapport à la nature et au grand air et à l'espace. Et donc, ça pose ces questions finalement pour les gens qui conçoivent la ville ou qui la gèrent, les élus et les techniciens des villes, de savoir comment est-ce qu'il faut qu'ils tirent des enseignements de cette période particulière. Et puis plus précisément sur la question du logement, dans lequel on a passé beaucoup de temps depuis plusieurs semaines, on s'interroge du coup si le travail devait être plus facilité à l'intérieur du logement, comment est-ce qu'il faut concevoir ces logements avec une pièce en plus ou pas, est-ce que le télétravail tel qu'il s'est développé massivement va se maintenir, qu'est-ce que ça va générer dans les espaces dédiés au travail dans les villes. Ça pose en fait un certain nombre de ces questions. Par exemple, sur l'espace du travail, aujourd'hui, les centres-villes les plus dynamiques sont réservées beaucoup aux activités tertiaires qui finalement depuis la crise sont télétravaillées si on peut dire, et à l'inverse on s'interroge sur la réindustrialisation des villes pour notamment pour remettre de l'industrie de biens essentiels. Là, on parle de fabriquer des masques, mais demain, ce sera la transformation alimentaire
pour d'autres fonctions. Inverser la tendance. Restez avec nous. Elisabeth a regardé un petit peu aussi cette transformation du côté de l'hôpital de demain. Là aussi, il y a la question des bâtiments qui se pose.
Oui, parce que la crise que nous vivons, elle a mis en lumière que les espaces n'étaient pas forcément adaptés, notamment dans les hôpitaux. Et là, justement, on l'a vu, hein, le plan blanc a été conçu pour répondre à des crises sanitaires, à des attaques terroristes, bactériologiques, mais ce plan blanc n'avait pas intégré la possibilité, en tout cas pas complètement, d'un afflux si massif et si soudain de patients en réanimation pour des séjours longs en plus. Donc, il y a des agences en ce moment qui travaillent, des agences d'architecture, qui travaillent sur la gestion de l'espace, parce qu'on s'est aperçu que la gestion de cette crise passe aussi par cette gestion de l'espace. On l'a vu avec la formation des hôpitaux de campagne, transférer les malades dans d'autres villes pour trouver aussi de l'espace. Donc toute cette notion d'espace va devenir centrale et majeure concernant la question du bâtiment et de l'hôpital de demain.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette problématique-là. Je précise, Hélène Peskin, que vous avez mis un délai au 27 avril pour recueillir les réflexions. Et ensuite, évidemment, on aura la quintessence de tout ce qui a été recueilli. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à Julie de la Sablière. 13h40 sur Europe 1.
Europe 1.
Imaginez la suite, c'est pour nous, mais c'est aussi évidemment pour les générations qui nous succèdent. Et elles ne sont pas en reste quand il s'agit de penser à l'après. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h42, quand on est journaliste, on analyse souvent, c'est vrai, l'actualité à chaud, mais certains ont depuis quelques années déjà choisi de se projeter, de penser à demain. Et aujourd'hui, avec la crise que nous traversons, l'après devient encore plus important. Bonjour Alice Pouya.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, rédactrice en chef adjointe de Oui Demain, magazine qu'on aime hein, ici à La France Bouge et à Europe 1. Vous êtes la revue du monde qui change. Et on tourne les pages de votre magazine, on s'aperçoit en général que ces changements, ils infusent depuis déjà pas mal de temps. Mais pendant ce confinement, vous avez lancé quelque chose de particulier, des podcasts intitulés Les jours d'après. Quel est leur intérêt et quelle sera leur mission ?
Alors effectivement, vous l'avez dit, interroger le futur, c'est un peu dans notre ADN depuis depuis 8 ans maintenant. Depuis 8 ans, on scrute ces initiatives qui changent le monde. Mais là, c'est vrai qu'il y avait quelque chose, il s'est passé quelque chose de particulier pendant cette crise. Tous vos invités pendant l'émission ont témoigné. C'est vrai que le virus a pointé des dysfonctionnements de notre système, qui sont nombreux, hein, une forte dépendance à l'étranger, des métiers sous-valorisés, des déséquilibres ville-campagne, beaucoup de choses. Mais aussi, il a eu le mérite de montrer que l'inimaginable, comme ce confinement qu'on a vécu, la vie masquée, que personne n'avait prévu, est parfois possible. Et donc, de libérer un peu l'imaginaire. Cette crise, finalement, elle a redonné un peu de place à l'utopie. Et alors, bien sûr, cet élan, on l'a dit aussi, il risque de s'essouffler. Parce qu'il y a des forces de conservation toujours très fortes à l'œuvre, mais nous avions envie de l'entretenir et d'interroger ce monde d'après.
Et alors, qu'est-ce qu'il a, selon vous, de différent, ce monde d'après ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer de concret et de moins utopiste, peut-être, qui soit réalisable dans les mois qui viennent, par rapport au podcast que vous avez pu recueillir ?
Donc effectivement, nous, on a lancé ce podcast. Ce sont des épisodes de 5 minutes que nous avons produits avec la collaboration des artisans du podcast. On a donné la parole à des personnalités d'horizons assez différents qui ont eu en fait la possibilité de s'enregistrer depuis leur lieu de confinement et de s'exprimer très librement sur leur vision du monde de l'après, du monde d'après. Et donc chacun dans des domaines assez différents avec des propositions assez variées qui peuvent être dans des domaines très différents. On peut prendre par exemple, en fait, donc chacun propose quelque chose, énoncé ses souhaits. On a 12 épisodes, donc on a fait 3 épisodes par semaine pendant 4 semaines.
Ça s'arrête lundi pour faire place à un numéro papier de Oui Demain hein, qui revient.
Tout à fait. Ça va continuer effectivement dans la revue, mais pour l'instant, donc on a 12 épisodes. Je peux vous donner quelques exemples.
Oui,
comme
bien
ça.
Sûr.
On a par exemple Damien Carême qui nous proposait d'instaurer un compteur carbone pour suivre toute notre vie, nos mesures, nos dépenses de CO2. Évidemment, de relocaliser l'économie ou de créer un indice de développement humain qui remplacerait le PIB. Ça peut paraître un peu ambitieux, mais c'est vrai que dans ces périodes, voilà, dans cette période où on a l'impression que tout peut être possible, oui. Les propositions qui font du bien, quand même. On a dans le domaine de l'éducation François Taddeï, donc un spécialiste de l'éducation, oui. qui proposait lui d'apprendre davantage aux enfants dès l'école à résoudre par eux-mêmes des défis collectifs, hein, plutôt que d'apprendre des leçons toutes faites. D'apprendre par cœur, mais plutôt d'apprendre collectivement à résoudre des défis pour mieux surmonter les crises.
Oui, et puis on en revient toujours à cette notion d'ensemble hein, qui finalement s'est imposée pendant son confinement. Je voudrais qu'on aille du côté de Nice avec vous, Elisabeth, parce que je crois qu'il y a une fintech aussi qui a essayé de réunir toutes les initiatives.
Oui, une fintech qui s'appelle Quantilia, qui a recensé dès le début hein, et qui a analysé toutes les initiatives prises par les entreprises pour lutter contre la pandémie. Ils s'y sont pris dès le début de la pandémie pour l'objectif, pour préparer le monde d'après. Cette fintech niçoise Quantilia existe depuis 3 ans, alors qu'il a déjà recensé plus de 1000 initiatives sur tout le territoire. Que ça concerne la réorganisation en interne des équipes pour permettre le télétravail, parce qu'on l'a vu là pendant toute l'émission, au niveau du monde du travail, c'est ça qui va surtout changer, c'est la façon dont on aborde le travail, cette notion de télétravail, on l'a éprouvé, on voit qu'on peut travailler tout en restant à la maison, donc ça va être majeur. La mise en activité partielle de certains salariés pour éviter les licenciements, voilà, tous ces projets, toutes ces initiatives sont recensées, ça continue, et c'est Quantilia, donc à Nice, qui a mis ça en place.
Vous restez avec nous, Alice Pouya, parce que je suis sûre que notre invitée suivante va vous passionner. Nous sommes en ligne avec Stéphanie Wismer-Cassin. Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de la fondation Next. Et alors, dans ce contexte très particulier, vous avez eu l'idée de donner la parole aux jeunes. C'est vrai que ça les concerne aussi, hein, l'après. Parce que vous dites, ils n'abordent pas, ils ne vivent pas cette crise finalement de la même manière que nous.
Ah oui. Donc, si on met en perspective les événements actuels, nous sommes d'emblée dans un monde chaotique. Hein. Quand on parle de révolution industrielle, quand on parle de 80% des métiers de 2030 qui n'existent pas, les adolescents, les jeunes, sont d'emblée projetés dans un monde chaotique. Là, ce qu'il y a de spécifique, c'est que ça touche, au-delà des aspects économiques et de pas de visibilité de l'avenir, ça, quelque part, une vision du monde quand ils ont l'habitude, là... Mm-hmm. C'est réellement les confronter à une vraie problématique de vie ou de mort très jeunes dans leur construction. Et donc, ça suscite beaucoup de questions. Nous, notre fondation, elle a vraiment pour but de créer un lien entre l'enseignement actuel et justement les métiers de demain par le mode projet. Donc, en fait, c'est une idée qu'on a eue parce que les enfants qu'on a tous les jours à la fondation, qui travaillent sur des projets, sont venus vers nous en nous posant des questions. C'est des adolescents en 2020 pour lesquels le monde des possibles, aujourd'hui, c'est le digital. C'est-à-dire oui. qu'eux, ils existent, leur vie continue. Quand nous, notre vie d'adulte se brise, eux, leur vie continue sur Internet. Donc, ils n'ont pas du tout la même perception que nous. Mais ça les rend passifs, c'est-à-dire que ça nous pose quand même la question de ces adultes en devenir, quels acteurs vont-ils être dans le monde de demain ? Et c'est vraiment cette question-là qu'on a voulu poser.
Oui, c'est la raison pour laquelle vous avez mis en place Génération Covid. Alors, ça s'adresse aux 11-14 ans, aux 15-18 ans, pour qu'ils construisent le monde d'après ensemble. Du coup, qu'ils deviennent un peu plus acteurs. Il y aura des gagnants, il y aura une remise de prix au mois de juillet.
Oui, c'est ça. Donc, le but, c'est quand même de les stimuler, hein, parce que comme je vous dis, eux, leur vie, même si elle était complètement bouleversée, a continué sous la forme du digital. Donc là, le but, c'était vraiment de les motiver en disant, voilà, il y a 500 euros à la clé pour vous donner les moyens de vos ambitions, parce qu'on est aussi, vous le voyez là, en pleine crise économique, où la problématique de l'argent, c'est comme on peut pas faire parce qu'on n'a pas les moyens. Et nous, notre but, c'était justement de dire, vous avez des idées, vous avez des projets, et on récompensera les meilleurs. Et on vous donnera des moyens.
Et l'ensemble de ces propositions sera réuni dans un grand plaidoyer que vous allez évidemment soumettre à la fois au grand public, mais aussi aux personnes qui nous gouvernent. Je voudrais qu'on aille faire un petit détour pour terminer rapide dans la région Grand Est, parce que la région Grand Est aussi pense demain, Elisabeth.
Oui, la région Grand Est et l'État ont lancé un plan baptisé Business Act Post-Covid. Covid. C'est la région qui a été durement touchée, hein, le Grand Est. Le secteur économique a été particulièrement touché. Et donc, ils se sont mobilisés pour lancer ce plan de reprise inédit. C'est une démarche collective en 4 étapes pour aboutir à un plan qui sera soumis au vote de l'Assemblée régionale le 18 juin prochain. Ce plan Business Act s'articule autour de trois axes. Il va se décliner en 4 masterclass, des groupes thématiques ainsi que des contributions libres pour tenter là aussi de penser la société de demain, notamment dans la région Grand Est.
Voilà les quelques pistes que nous pouvions vous donner, vous faire partager pendant cette émission. Merci à Stéphanie Wismer d'avoir été avec nous, Alice Pouya également. Elisabeth, nous on se retrouve demain. Évidemment,
bien
à partir de 13h. Et nous nous intéresserons ensemble aux entreprises qui s'en sortent justement pendant cette crise.
Europe 1.
13h51, on va rejoindre Roland Pérez qui répond à toutes vos questions de droit. A tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h54, comme chaque jour, il est là pour répondre à toutes les questions de droit que vous posez, celles que vous nous laissez au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Nous retrouvons Roland Pérez. Maître, bonjour.
Hello Raphaël, bonjour à tous.
Alors, nous avons évidemment des questions comme chaque jour qui soulèvent des problèmes assez différents, c'est vrai. Comme la question posée par Marie, on devait vendre notre maison ce printemps, on est un peu perdu, est-ce pertinent de se lancer ou faut-il plutôt attendre le mois de septembre ?
Alors, la bonne nouvelle pour Marie, c'est que selon une étude post-confinement qui a été effectuée justement par des promoteurs immobiliers, il semblerait qu'un Français sur trois ait envie et même ressente le besoin d'acquérir un bien au calme et parfois proche de la nature. Alors, je ne sais pas où est la maison de Marie, mais si elle se situe un peu dans ce contexte, eh bien, c'est peut-être une bonne nouvelle. Et 17% estiment d'ailleurs que la proximité du logement avec leur lieu de travail est moins importante. C'est une étude qui a été faite par meilleurbien.com. Il semblerait également que les citadins qui ont vécu le confinement dans leur petit appartement ont envie d'une maison avec jardin et que donc même dans une ville accessible à quelques heures en TGV, les maisons sont les grandes gagnantes du marché de l'immobilier. Donc ça peut être le bon moment pour Marie de vendre. Il faut savoir que les agences immobilières là se sont mis à la digitalisation des visites.
Ouais.
C'est difficile à dire, mais c'est facile à faire. C'est-à-dire que les agents immobiliers aujourd'hui qui ont gardé des contacts avec tous leurs clients proposent des visites virtuelles. Alors c'était déjà le cas, là ils ont vraiment explosé et développé ces visites virtuelles. Ça permet déjà d'avoir une prévisite pour la maison de Marie.
On sait déjà si ça va nous intéresser ou pas.
Exactement. Et puis l'autre dispositif qui a été mis en place, c'est la visite live, c'est-à-dire que l'agent immobilier est dans la maison ou l'appartement et les visiteurs de l'autre côté de leur écran, et ainsi ils peuvent aussi avoir une visite en live de cette maison. Alors la question maintenant qui se pose pour Marie, c'est le prix. Est-ce qu'elle va pouvoir conserver le même prix? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un prix à la baisse, d'autant plus qu'on parle des crédits immobiliers qui risquent de remonter? En avril, ils n'ont pas trop remonté, mais on craint vraiment qu'il y ait une remontée de ces taux.
C'est très bas, effectivement, pour l'instant.
Et oui, et donc celui qui achète, est-ce qu'il aura les moyens, est-ce qu'il aura envie? Donc il semblerait que les négociations risquent d'être un peu plus rudes, plus longues. Si l'ensemble une autre étude dit que si 9 particuliers sur 10 n'abandonnent pas le projet immobilier, plus de 40% préfèrent attendre quelques semaines, voire quelques mois. Donc si Marie n'est pas extrêmement pressée, peut-être qu'effectivement ce serait mieux pour elle d'attendre au mois de septembre. On va voir un petit peu comment les taux immobiliers vont évoluer. Il semblerait que la nouvelle fourchette se situe entre 1,50 et 1,90, alors qu'avant avant toute cette période de Covid, il était entre 1% et 1,50. Donc, effectivement, ça va augmenter un petit peu, probablement, et ça va donc rendre un peu plus difficile pour un acquéreur d'obtenir son prêt s'il n'a pas, c'est ce que disent également les études, s'il n'a pas une somme à mettre tout de suite pour pouvoir réduire le montant du prêt qu'il va demander.
Voilà pour la question de Marie. Passons à celle de Benjamin, si vous le voulez bien, Roland. Benjamin habite Paris, donc en zone rouge. Les parcs sont fermés, mais, dit-il, est-ce que j'ai le droit de consommer de l'alcool sur la voie publique, avec des amis, si je trouve un endroit avec un banc, par exemple?
Bon, Vous savez, vous vous rappelez, on en a parlé sur cette antenne, oui, un peu partout, au premier jour du déconfinement, les berges du canal Saint-Martin ont été prises d'assaut par des Parisiens qui étaient en mal d'apéro après 2 mois de confinement. Et ils ont évidemment été verbalisés. Immédiatement, la préfecture est intervenue. Et puis Christophe Castaner l'a rappelé, la réussite du déconfinement passe par la prudence et le civisme de chacun. Donc, en tout cas, ce qui est aujourd'hui le droit, c'est que le décret qui a été 11 mai et 12 mai publié indique bien que sur les voies et les lieux publics, il y a une interdiction de se réunir à plus de 10 personnes. Donc si effectivement notre éditeur est à moins de 10 personnes, il peut effectivement se réunir. En revanche, il est indiqué que l'alcool, c'était une autre indication dans un communiqué publié d'ailleurs lundi soir par la préfecture de police, qui a annoncé l'interdiction, en tout cas à Paris, de la consommation d'alcool le long des berges de Paris et, j'ai envie de dire, sur toute la voie publique. Donc, boire de l'alcool, non, un apéritif avec des jus de fruits, c'est peut-être moins festif, mais pourquoi pas, cela peut se faire. Moins de 10 à Paris, pourquoi pas, s'ils trouvent un endroit plutôt agréable pour le faire, c'est possible aussi. On avait également, s'était posé la question si dans un domicile privé, plus de 10 personnes, c'était possible. Enfin, on vient d'avoir la réponse. Oui, a priori, c'est possible si les règles d'hygiène et de distanciation sont respectées. Et on sait d'ailleurs que c'est un peu compliqué pour les autorités de venir contrôler dans les domiciles privés s'il y a moins de 10 personnes, s'il y a plus de 10 personnes, s'il y a cette distanciation. Il faut vraiment faire appel et vraiment à la prudence de tous ceux qui vivent notamment dans les zones rouges encore.
Merci Roland, c'est très clair. Merci de ces réponses pour Benjamin et pour Marie. On se retrouve évidemment dès demain, juste avant 14h, pour de nouvelles questions posées au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Quant à moi, je vous retrouve à partir de midi aux côtés de Pierre de Villeneuve demain et 13h avec Elisabeth Assayek pour La France Bouge. D'ici là, restez avec nous, c'est On Delatte raconte.